C'est le MAG avec les étudiants du Master en Stratégie de Communication Internationale, Irena Wehr.
Bonjour à tous et bienvenue sur RCF. Vous écoutez Curious Live et c'est parti pour la troisième émission de la saison. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une émission spéciale sur les musées et leur communication, co-animée avec Lina, que vous connaissez déjà bien. Nous accueillons aussi deux autres étudiantes de notre Master, Joanne et Joyce, passionnées de musées, qui vont nous parler de leurs propres expériences.
Effectivement, Irena. Mais alors, quelle image extérieure les musées renvoient-ils ? Nous avons posé la question à quelques étudiants et voici leurs réponses.
Est-ce que ça t'est arrivé de voir des campagnes de communication sur des musées ou des expositions ?
Récemment, j'ai vu une campagne de com du musée du Prado, donc en Espagne, avec WWF Espagne, où ils déformaient des œuvres très connues pour la cause environnementale.
Alors dernièrement, j'ai vu forcément la campagne de communication du théâtre de Mâcon, du coup, puisque je travaille juste à côté. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de passer plusieurs fois devant. J'aime beaucoup parce qu'en fait, ils arrivent de plus en plus à faire une communication plus adressée en fait à des cibles jeunes. Et c'est vrai que ça fait plaisir à voir, étant donné que, par exemple, Mâcon, c'est une ville à tendance vieillissante. Je trouve hyper intéressant d'essayer de ramener en fait une cible un peu plus jeune dans leur communication.
Alors récemment, j'ai vu la campagne de communication d'un centre de graphisme qui est dans ma ville natale, Chaumont, qui s'appelle Le Cygne, très réputé car il accueille beaucoup d'expositions et elle se renouvelle chaque saison. C'est jamais toujours la même chose, donc ils n'ont pas d'identité propre à eux-mêmes. C'est toujours quelque chose qui change au fil des saisons.
Et est-ce que ça t'a donné envie d'y aller ?
Oui, déjà parce qu'au niveau de leur programme, en fait, ils arrivent à mieux se renouveler qu'avant et en plus, ils arrivent à mieux communiquer dessus. Donc c'est vrai que moi, ça m'a donné plus envie d'y aller, c'est 2-3 dernières années que, par exemple, les souvenirs que j'en ai quand j'étais un peu plus petite.
Et étant donné que j'y vais à chaque nouvel renouvellement d'exposition, celle-ci m'a aussi donné envie d'y aller car elle met en avant des artistes qu'on connaît pas forcément et ça me donne vraiment envie de découvrir ces nouveaux artistes.
Est-ce que tu penses que les musées devraient plus se concentrer sur leur communication pour se faire connaître ?
Ouais, je pense pour des cibles qui n'ont pas l'habitude d'aller au musée voir des communications impactantes, ça peut être une bonne idée pour attirer une nouvelle cible.
Oui, je pense que c'est intéressant déjà pour pouvoir peut-être toucher des personnes qui ne sont pas forcément visées par tout simplement les musées de base.
Pour se faire connaître, j'imagine que oui, car la communication c'est toujours très important, peu importe le secteur. Par exemple, il y a un musée que j'ai visité l'an dernier au Cap d'Agde sur la Grèce antique. Ils ont mis par exemple un écran et des manettes pour jouer au jeu Assassin's Creed Odyssey qui permettait aux visiteurs de s'immerger directement dans l'histoire au lieu qu'on leur montre qu'ils doivent lire quelque chose.
Alors dans ces interviews, on découvre des exemples locaux et internationaux hyper intéressants. Et effectivement, on comprend que lorsque les campagnes sont travaillées et adaptées à leur cible, elles plaisent beaucoup plus et par conséquent donnent envie au public de visiter le musée en question. Et justement, les musées ont longtemps été considérés un peu comme des temples du savoir, où l'on venait admirer des objets précieux et comprendre l'histoire des civilisations. Aujourd'hui, leur mission a évolué. Ils ne sont plus seulement des lieux de conservation du patrimoine, mais de véritables plateformes d'échange et de dialogue avec leur public. Entre la préservation de la mémoire collective et l'engagement citoyen, les musées se transforment. Alors, comme l'explique l'ICOM, donc le Conseil international des musées, un musée est une institution au service de la société qui recherche, conserve, communique et expose le patrimoine matériel et immatériel de l'humanité. En d'autres mots, il ne suffit plus de protéger les œuvres, il faut aussi les partager, les expliquer et les ancrer dans un dialogue contemporain. Mais alors, à l'heure du numérique, comment les musées font-ils pour créer un lien durable avec leur public ? La communication est un levier important. Il ne s'agit plus simplement de diffuser des informations, mais de rendre l'expérience muséale attractive, accessible et aussi engageante. Les musées doivent donc attirer des visiteurs aux profils variés, donc des passionnés d'art, des familles, des jeunes ou encore même des publics éloignés de la culture. Ils doivent donc adapter leurs messages et utiliser les canaux de communication les plus efficaces. Selon une étude de Communicar, les musées qui réussissent à diversifier leur communication en ligne et hors ligne sont ceux qui parviennent à engager des audiences plus larges et à fidéliser leurs visiteurs.
Eh bien, merci beaucoup Lina pour cette entrée en matière et je te propose qu'on continue par donner un peu de contexte. Quelle place occupe la communication pour les musées ?
Alors c'est une excellente question Irina. Évidemment, comme chaque entreprise, organisme ou autre, la communication joue un rôle clé quant aux objectifs qui souhaitent être atteints. Eh bien, cela s'applique également aux musées. On peut définir leur mission principale comme un besoin de visibilité et une volonté de diffuser et transmettre de la culture. D'ailleurs, dans l'ouvrage « Nouvelles tendances de la muséologie » écrit par Brigitte Juanals et Jean-Luc Minel, Il est évoqué dans un chapitre le besoin de modernisation de la part des musées pour s'inscrire dans les environnements numériques.
Et oui, en effet, c'est vrai que l'arrivée exponentielle du numérique et du digital a vraiment lancé un nouveau défi pour les musées. C'est réussir à transmettre le contenu et les valeurs du musée de manière accessible et engageante à un public toujours plus diversifié. Mais dis-moi, Lina, comment les musées peuvent-ils faire pour réaliser une communication efficace et qui puisse toucher beaucoup de monde ?
Alors, d'après un document publié par le ministère de la Culture, appelé « Agir et communiquer auprès des publics de proximité », le principal problème des musées serait leur image plutôt négative que se fait le grand public. En effet, en lisant ce document, on apprend que les musées souffrent encore malheureusement de leur étiquette dite « vieillotte et poussiéreuse ». On peut y lire « c'est le côté naphtaline, le côté un peu poussiéreux d'une institution qui n'a pas su se mettre au goût du jour et qui est dans une logique finalement de conservation plutôt que de diffusion ou de médiation culturelle ».
Et d'accord, donc ça sous-entend que pour réussir à réaliser une communication externe qui est efficace, il faudrait d'abord établir un objectif clair. Faire connaître son musée en mettant en avant la diffusion culturelle.
Exactement, Irina. Et pour cela, les musées peuvent faire appel à la technique du storytelling. Alors le storytelling, qu'est-ce que c'est ? C'est l'art de raconter une histoire à travers un objet ou un autre support, et dans notre cas, ça sera à travers une œuvre d'art. Selon l'article « Fabulation moderne dans la communication des musées d'entreprise » écrit par Domenico Ligieri de l'université IULM de Milan, on apprend que chaque œuvre d'art a besoin que l'on raconte son histoire afin d'attirer l'attention du public et être pleinement valorisée. Le storytelling permet de créer un souvenir chez le visiteur et de rester ancré en sa mémoire. En plus de ça, le choix des canaux est également primordial.
D'accord, mais du coup, comment savoir quel canaux de communication choisir ?
Eh bien, tout dépend de la cible. Si le public que l'on souhaite toucher est un public relativement jeune, il faudra choisir des canaux de communication numérique via les réseaux sociaux, notamment. Mais si l'on souhaite toucher un public plus niche de passionnés d'art, on peut décider de passer par des canaux ciblés, comme des newsletters d'adhérents par exemple. Plusieurs musées ont également mis en place des revues spécialisées. Donc je pense notamment à la Revue des musées de France, ce qui est la revue du Louvre, réalisée en collaboration avec le Conseil des musées nationaux. Elle regroupe les différentes actualités du musée, ses acquisitions, mais également des articles dédiés à des œuvres conservées par des musées français. Cette revue est l'exemple parfait d'un support de communication dédié aux passionnés d'art et de musée, puisque le lectorat est principalement composé d'adhérents des associations des amis de musée. Donc un public relativement niche finalement. Cela dit, la revue reste aussi accessible et libre à l'achat. Il faut savoir s'adapter à la diversité des publics qui visitent un musée, que ce soit des locaux, des touristes, des familles ou des groupes scolaires. Dans tous les cas, il s'agit avant tout de savoir transmettre le contenu et les valeurs du musée de manière accessible et engageante.
D'accord, Lina, mais bon, s'il n'y a que les passionnés d'art qui peuvent avoir accès à ce genre de contenu, ça touche plus vraiment un public varié. Mais il n'y a pas d'autres supports ou contenus en lien avec des musées qui soient un peu plus adaptés à tout le monde ?
Alors si, justement, Irina. Entre 2002 et 2020, une courte émission d'environ 2 minutes à peu près était diffusée sur France 2, dont le nom était « Dard d'art ». Chaque épisode mettait en avant une œuvre d'art et le musée où elle était exposée, de manière informative, mais moderne. Avec un générique de début entêtant qui met en scène des tableaux discutant entre eux, on pouvait y retrouver différents effets, comme de la modélisation 3D par exemple. Je me rappelle qu'elle passait juste avant le programme du soir à 1 heure de grande audience, donc diffusée à un horaire susceptible de toucher le maximum de monde. Personnellement, j'aimais beaucoup et je trouvais qu'elle rendait l'art accessible avec des termes simples d'utilisation. Pas besoin d'être un expert des musées pour comprendre au final. De plus, on peut également la retrouver en replay sur les sites de France Télévisions.
Super, Lina, il faudrait que je regarde un épisode parce que ça a l'air super cool comme émission. Maintenant, il est temps pour un petit interlude musical, avec un morceau qui est directement relié au sujet que nous traitons aujourd'hui. Il s'agit de la bande originale du film célèbre La Nuit du Musée. Elle s'appelle Night at the Museum d'Alan Silvestri. A tout de suite.
C'est le MAG avec les étudiants du Master en Stratégie de Communication Internationale, Irena Wehr.
Vous êtes toujours sur RCF en Bourgogne et vous écoutez l'émission Curious Live. C'était donc le morceau Night at the Museum composé par Alan Silvestri. C'est un film, La Nuit au Musée, qui a dû donner envie à beaucoup de personnes d'aller au musée justement, du fait de son animation qui est incroyable, surtout pour les plus jeunes. Je suis toujours en compagnie de Lina, Joyce et Joanne. Maintenant, je me tourne donc vers Lina, qui va nous plonger dans la question de la communication print ou digitale. Faut-il privilégier le papier, les articles dans la presse, ou bien la présence en ligne, à travers les réseaux sociaux, les sites web ou les emailings? Ou est-ce qu'un espèce de mélange entre tous ces canaux serait la clé du succès? Lina, je te laisse nous en dire plus sur ce que tu penses capte vraiment l'attention des publics d'aujourd'hui.
Merci beaucoup Irena. Alors en effet, l'expérience visiteur n'est absolument pas à négliger lorsqu'on établit une stratégie de communication pour un musée. Comme expliqué précédemment, afin de dépoussiérer l'image populaire des musées, il faudrait rendre l'expérience utilisateur des visiteurs plus contemporaine. Selon le kit d'accompagnement pour les musées du ministère de la Culture, la notion de divertissement devrait être associée au musée. Inclure des jeux interactifs, des expositions ludiques par exemple, transformerait l'expérience visiteur comme un souvenir léger et divertissant, oubliant ainsi l'image dite poussiéreuse des musées. D'ailleurs, ça me rappelle un article de L'Œil du Public, ça s'appelait « Les musées en dialogue avec la génération Z ». Dans cet article, on apprend que 47% des 15-24 ans utilisent TikTok et 82% utilisent Instagram, et que désormais, le prestige et la qualité des musées ne suffit plus à attirer les jeunes. Les musées doivent donc user de toujours plus de créativité pour convaincre la génération Z de visiter un musée.
Oui, tout à fait, Lina. Et on peut prendre pour exemple le musée suisse de la finance à Zurich. Eux, ils avaient un défi d'autant plus redoutable à relever, car non seulement il s'agit d'un musée, mais il traite d'un sujet technique et qui nécessite souvent d'avoir une connaissance préalable pour mieux comprendre ce qui est exposé là-bas. Leur solution pour remédier à ce manque de notoriété auprès des jeunes, c'était créer du contenu culturel et divertissant sur TikTok, en utilisant un ton léger et humoristique. Pour citer l'article de L'Œil du Public, il s'agit de contenu pour les jeunes et par les jeunes.
D'accord, et quelles ont été les retombées de cette stratégie de communication, Irena?
Eh bien, on peut dire qu'elle a fait ses preuves, parce qu'en 2023, le musée suisse de la finance a observé une augmentation des visites de la part des 13-18 ans de 134% par rapport à 2022. En plus de ça, le musée a également reçu le prix du Silver Award dans la catégorie Marketing Youth au European Digital Communication Awards.
En effet, on peut voir que leur stratégie a porté ses fruits. En choisissant de cibler un public jeune, ils ont également dû diversifier leur support de communication en s'axant beaucoup plus sur du digital.
Oui, merci Lina. Et d'ailleurs, je me tourne vers Joanne. Toi qui as eu l'occasion de travailler dans un musée, est-ce que tu as une préférence entre les supports print et digitaux? Et peut-être un exemple d'un musée dont tu as particulièrement apprécié la communication, que tu as trouvé particulièrement efficace?
Alors oui, merci Irena. Effectivement, j'ai eu la chance de travailler pendant 2 ans au musée des Beaux-Arts de Dijon. Ça m'a permis de découvrir de près l'importance de la communication pour attirer des publics divers. À titre personnel, je dirais que le support digital est essentiel aujourd'hui, surtout pour capter l'attention des plus jeunes. Je vais prendre l'exemple du Louvre, qui fait un excellent travail sur Instagram. Ils mettent en avant leurs œuvres d'une manière créative, avec des légendes qui racontent des histoires, qui suscitent l'interaction. Je pense notamment à leur rubrique hashtag Louvre à la loupe, qui permet de découvrir certaines œuvres sous différents angles, avec différentes photos et anecdotes sur l'œuvre et son artiste. Elles reviennent assez fréquemment. Les publications deviennent virales, permettant au musée d'être découvert bien au-delà de ses frontières.
Merci beaucoup. Et est-ce que tu aurais un autre exemple international peut-être à me donner?
Alors oui, on peut penser au Met de New York et son gala annuel, le Met Gala, qui est mondialement connu. L'événement est très médiatisé et leur permet de faire de la culture un événement glamour presque pop. En réunissant des célébrités habillées dans des tenues inspirées par les expositions du musée, le Met capte l'attention de millions de personnes sur les réseaux sociaux et dans les médias. Ils vont jouer sur les codes du divertissement pour capter l'attention d'une génération qui fréquente moins les musées, en rendant de ce fait l'art accessible et en lien avec des figures de la mode et du divertissement. D'ailleurs, pour l'anecdote, le Met n'est pas le seul à avoir innové. En France, le Louvre a été pionnier en lançant sa première campagne d'affichage dans le métro parisien en 1994. Elle incluait même un numéro Minitel, le 3615 Louvre, qui permettait de recevoir le programme par voie postale. Bien que modeste, l'initiative témoignait déjà d'une volonté d'élargir les moyens de communication afin de toucher davantage de monde.
Et du coup, le Louvre, est-ce qu'il a continué cette démarche ?
Alors oui, effectivement, le Louvre poursuit cette démarche en s'associant avec des technologies modernes. Par exemple, leur collaboration avec Snapchat permet de visualiser certaines œuvres de manière interactive, notamment des pièces datant de l'Égypte antique, via la réalité augmentée et à même le téléphone. Ce partenariat permet en quelque sorte aux utilisateurs de reconstruire virtuellement des œuvres ou des salles entières du Louvre, comme si elles prenaient vie sur leur écran. C'est une expérience immersive qui rend les collections du Louvre plus tangibles pour un public plus jeune, qui peut ainsi découvrir l'art, notamment depuis chez lui. Je vais prendre l'exemple du lancement d'un jeu pour Nintendo 3DS qui s'appelle Guide Louvre il y a presque 10 ans et qui transforme la console en audioguide interactif permettant aux visiteurs de découvrir les œuvres du Louvre avec des explications détaillées, des images, des cartes pour enrichir leur visite du musée. Et le musée propose même ses audioguides à même la console. Cela rend la visite plus interactive et ludique et transforme le parcours dans le musée en une sorte de quête où l'on va découvrir chaque œuvre de manière dynamique et personnalisée. En conclusion, la communication print conserve son rôle pour toucher un public large, mais le digital offre des opportunités inégalées de dialogue et de proximité. Le Louvre et le Met montrent bien comment l'innovation peut amener les musées à faire partie du quotidien de chacun, et je suis intimement convaincue que c'est essentiel pour qu'ils continuent de captiver un public toujours plus large et diversifié.
Bien, merci beaucoup Joanne d'avoir partagé ces exemples, c'était super intéressant. Et maintenant je me tourne vers Joyce. Est-ce que toi tu penses que la communication des musées s'arrête à de simples supports digitaux ou print, ou est-ce qu'il faudrait les incorporer pour qu'ils fassent partie d'une stratégie de communication interactive et évolutive ?
Eh bien, comme évoqué dans un article par l'ICOM, Conseil international des musées, ces nouvelles tendances sociales offrent la possibilité aux musées de repenser leur communication en instaurant une relation plus interactive où l'utilisateur peut s'impliquer davantage et jouer un rôle plus actif dans l'expérience muséale. Mais pour que cette transformation soit efficace, elle doit s'inscrire dans une stratégie numérique réfléchie, appuyée par des ressources humaines et des technologies adaptées. Sans cette organisation, le musée risquerait de ne pas pouvoir suivre l'évolution rapide des réseaux sociaux et les attentes des visiteurs.
Ok, ouais, donc il me semble assez évident que l'enjeu pour les musées est aussi de construire des relations durables avec leur public.
Évidemment, l'expérience muséale ne s'arrête plus à la porte du musée. Comme nous l'avons vu avec Joanne, de nos jours, les visiteurs sont invités à interagir, à participer à des ateliers, des débats ou des événements en ligne. Le Musée d'art contemporain de Montréal, par exemple, propose des séances de co-création où les visiteurs collaborent à des œuvres d'art, renforçant ainsi leur engagement et leur sentiment d'appartenance. L'immersion est aussi devenue un des outils les plus efficaces pour faire réellement voyager le visiteur. L'hôtel de la Marine de Paris, par exemple, offre une véritable expérience immersive grâce au nouveau casque connecté appelé Le Confident. L'ayant moi-même utilisé lors de ma visite de l'exposition Siècle des Lumières, la technologie binaurale de ce casque permet notamment de redonner vie aux espaces et aux personnages qui ont habité l'hôtel de la Marine. En effet, ce casque a la capacité d'accompagner le visiteur tout au long de sa visite, permettant à ce dernier de carrément remonter le temps. T'en penses quoi, Lina ? C'est génial, non ?
Alors totalement, Joyce. Et les musées doivent devenir des lieux vivants, où les visiteurs ne sont pas de simples spectateurs, mais des participants. La fidélisation des publics passe d'ailleurs par cette interaction et ce sentiment d'être impliqué dans la vie culturelle de l'institution. À l'ère des réseaux sociaux, cet engagement se poursuit souvent en ligne, où les musées doivent continuer à susciter l'intérêt et à créer du lien avec leur communauté. On peut voir que certains moyens ont déjà été mis en place pour attirer de nouveaux publics et entraîner une fidélisation. Depuis le 4 avril 2009, l'accès aux collections permanentes des musées nationaux est gratuit pour les jeunes de moins de 26 ans, à condition qu'ils soient ressortissants de l'Union européenne. Selon le site du ministère de la Culture, cela vise à encourager la participation de tous les enfants et les jeunes à la vie artistique et culturelle, tout en s'adaptant au budget du public visé. Mais cela dit, est-ce que c'est suffisant ? Quels nouveaux moyens pourrait-on mettre en place pour convaincre et persuader plus de publics à visiter des musées ? L'idée de partenariat entre des établissements scolaires et ou universitaires peut être proposée, mais afin de sensibiliser dès le plus jeune âge aux enjeux culturels et artistiques que les musées ont à offrir.
Oui, alors merci à toutes pour la qualité de vos échanges. Et effectivement, les musées en tant que conservateurs du patrimoine ont aujourd'hui une responsabilité immense. Mais il nous semble aussi évident qu'ils doivent se réinventer pour répondre aux attentes de publics variés et exigeants. Donc communiquer efficacement en utilisant les outils modernes et en créant des expériences participatives est devenu essentiel pour renforcer la visibilité et établir les relations durables. C'est ce dialogue permanent entre conservation et engagement qui fait des musées des acteurs clés de la culture contemporaine. C'est déjà la fin de cette troisième émission, émission que vous pouvez retrouver en replay sur rcf.fr sous le nom C'est le mag-étudiant Massy. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain sur RCF en Bourgogne pour échanger sur une toute nouvelle thématique en lien avec l'art et la communication.